Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Merci déjà de votre invitation. Donc, je suis Florence Poupon, sexologue, thérapeute de couple, formée aussi à la psychogénéalogie. Donc voilà, j'accompagne des hommes, des femmes et des couples sur toutes les questions liées à la sexualité, au couple, à l'amour, à la relation à soi et à l'autre, et à cette complexité justement d'être en relation avec l'autre. Et si c'était simple, ça se saurait. Il n'y a pas de recette. Et l'idée, c'est vraiment que chacun, en fait, chaque couple, chaque personne puisse savoir ce qui est bon pour elle, pour lui, et dans son couple aussi, de créer, en fait, d'inventer son couple qui lui convient.
Super. Merci Florence. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette problématique. Comment entretenir le désir dans le couple? Alors justement, Florence, le désir, c'est quoi? Et est-ce que tu peux nous dire la différence entre désir et libido?
Oui, c'est vrai que c'est vrai. Souvent, on voit, en fait, tu vois, on parle de désir, on parle de libido. Et moi, j'aime bien faire la distinction des deux. Dans le sens où, alors, le désir, en fait, plus largement, on dit que c'est vraiment un élan, une énergie, quelque chose où on dit, bah oui, je désire, donc voilà, j'ai une envie, en fait, envers quelqu'un ou quelque chose. La différence pour moi avec la libido, c'est que la libido, ça va être vraiment la partie plutôt animale, plutôt les pulsions sexuelles, en fait, quelque chose plus d'hormonal, plus physiologique. Avec la libido, par exemple, on dit l'objectif, ça va être plutôt dans la sexualité, l'orgasme, l'éjaculation. Alors que le désir, pour moi, c'est quelque chose de peut-être plus large, plus psychologique, plus un partage, plus quelque chose de relationnel.
Donc, c'est une connexion.
Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Toi, l'objectif, c'est ça. C'est une connexion, c'est le plaisir, c'est du partage, c'est d'être en relation. Et du coup, quand on va distinguer les deux, ça permet après de voir, quand on y viendra tout à l'heure, à comment on peut raviver aussi certaines fois le désir, de distinguer en fait les choses physiologiquement et psychologiquement. Voilà.
D'accord, merci du coup pour cette explication déjà, Florence. Alors, comment justement il fonctionne le désir? Est-ce qu'on peut parler de cycle du désir?
Alors, le désir, déjà, en effet, c'est quelque chose de fragile, de complexe, il fluctue. Donc ça, déjà, peut-être partons du principe que tous les hommes et les femmes sur cette terre ont du désir ou ressentent du désir. Après, il y a certains moments, en fait, dans la vie où on a pu être coupé de son désir, on a pu vivre des choses qui font qu'on n'arrive plus, en fait, à ressentir ce désir-là. Et il faut aussi savoir une autre chose, c'est que le désir, il fluctue. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais tout le temps au top, quoi. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun homme et aucune femme, en fait, qui ont un désir à 100% toute leur vie. C'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fluctue, en effet. Il fluctue par diverses raisons. Il fluctue parce que des fois, on a des maladies. Des cancers, diabète, obésité, voilà. Il fluctue parce que des fois, il y a aussi pas mal de stress, d'anxiété, voire de la dépression. Il fluctue parce que des fois, on prend des médicaments qui vont aussi avoir une influence sur le désir. Il fluctue parce qu'on peut avoir des changements au niveau des hormones. Pour les femmes, ça va être des épisodes de grossesse, de ménopause, mais aussi tout simplement dans le cycle. On se rend compte, il y a des femmes souvent qui me disent, mais en fait, moi, je me rends compte qu'au moment de l'ovulation, au moment des règles, c'est là où je ressens le plus en fait mon désir pour mon conjoint ou ma conjointe. Donc ça c'est important. Il y a plein de moments en fait où le désir il va fluctuer, c'est normal. Voilà, c'est hyper important déjà de se dire, vous n'êtes pas anormal si des fois il y a des baisses de désir. Par contre, ce qui peut être intéressant de se questionner, c'est quand cette baisse de désir, elle est chronique, qu'elle est dure en fait depuis pour vous longtemps, et voilà. Donc, c'est plutôt quand il n'y en a plus ou qu'il n'y en a pas et que ça dure que là, c'est intéressant de pouvoir se poser des questions et du coup, pourquoi pas, en effet, de consulter pour se demander, pour voir, en effet, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ouais. Et est-ce que c'est la même chose, finalement, pour les hommes et pour les femmes?
Alors, c'est drôlement intéressant comme question, ça, Charlotte, parce que souvent, on entend, en fait, pas mal de choses. Pour les hommes, on entend des fois, dans 10 ans, de toute façon, les hommes, ils ont tout le temps envie. Alors que, et puis du coup, les femmes, les femmes ont peut-être moins envie. Donc, Oui, bien sûr, déjà que physiologiquement, on est différent. Ça, c'est une réalité. Physiologiquement, on n'a pas les mêmes hormones. Les hommes vont avoir, par exemple, plus de testostérone que nous, en fait, on va plus avoir d'ostrogène et de progestérone. Donc, niveau hormonal, déjà, il y a une différence. Il faut savoir que le désir, en plus, il vient se loger dans des zones du cerveau qui sont vraiment dépendantes aux hormones. Donc, les hormones, en effet, vont jouer un rôle là-dedans. Et c'est vrai que physiologiquement, les hommes ayant plus de testostérone que nous, on est plus faiblement dosé en testostérone, il y a physiologiquement, il y a quelque chose qui change. Après, il n'y a pas que ça, parce que ça serait trop simple. Mais il y a aussi comment, en fait, culturellement, dans notre société, si tu veux, on a été aussi, nous les femmes, on a bien compris qu'en fait, notre désir, c'était pas super de l'exprimer. Plein de raisons. Parce que qui exprimait son désir historiquement, en fait, c'était aussi souvent des prostituées. Donc nous, on a bien intégré finalement que si on exprime notre désir, on risque de passer pour une salope. Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment important de dire les mots parce que c'est ça, en fait, qui vient dans les croyances. On va, en effet, la religion aussi a eu un impact par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une femme ne peut pas exprimer son désir, en fait, c'est mal, ça se fait pas. Donc il y a déjà, en fait, historiquement, une différence aussi sur comment on exprime son désir. Et puis il y a aussi, sans vouloir être féministe ou pas, mais il y a quand même une société patriarcale dans laquelle on vit qui est aussi différente et où un homme, en effet, est plus autorisé à parler, en fait, de sa sexualité, à se masturber, à penser à la sexualité, qu'une femme, en fait. Et que nous, on va plus ressentir la culpabilité, la honte par rapport à tout ça. On va dire, si je me masturbe, voilà. Je ne dis pas que tout le monde pense ça, hein, mais c'est une tendance plus, on va dire, entre les hommes et les femmes. Et donc, moins on y pense, moins on est connecté à son désir, moins on est connecté à son désir, moins on l'exprime, etc. Et puis, il y a enfin aussi une dernière chose, quand même, je voulais en parler, mais il y a aussi une charge mentale qui pèse quand même vachement sur les femmes. Et que ça, c'est un vrai frein aussi au désir. Et qu'on a beau dire ce qu'on veut, même si vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie différence quand même avec avant, et les hommes prennent vraiment beaucoup plus leur part dans tout ce qui est tâches ménagères et tout. Mais il n'empêche que les chiffres parlent encore malheureusement d'eux-mêmes et que les femmes ont une tendance quand même à avoir plus de charge mentale et plus de tâches ménagères que les hommes. Et que ça... dans notre cerveau, quand on est embolisé par tout ça, on ne peut pas être disponible pour le désir, quoi. C'est pas possible, je veux dire, on peut avoir envie d'avoir envie, parce que beaucoup de femmes viennent me voir parce qu'elles ont envie d'avoir envie. Mais dans la réalité, elles bossent comme des dingues, elles ont envie que leur maison soit impeccable, elles ont les enfants à gérer. Et du coup, le soir, à 22h, quand les enfants sont couchés, quand ça y est, elles se retrouvent avec le moment d'intimité avec leur partenaire, mais juste en fait, elles n'ont plus envie, quoi. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui expliquent. C'est pour ça que, désolée, je prends un peu de temps, mais c'est vraiment important de comprendre toute cette complexité, que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà.
D'accord, c'est marrant parce que justement, j'avais vu un grand site qui avait publié une phrase très vraie qui disait que le jour où il y aura autant d'hommes à la sortie d'une école que de femmes, on aura gagné peut-être au moins sur un point. Et c'est très vrai finalement parce qu'il y a peut-être 80-90 pour une école et ils sont où les hommes, quoi, à ce moment-là. Mais bon, intéressant que tu nous aies parlé de cette fameuse charge mentale. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était le désir avec la différence avec la libido, penser à soi pour entretenir le désir sexuel, est-ce que c'est important ?
Oui, pour moi, c'est en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses par rapport au fait, en effet, de raviver le désir. Donc, quand on est dans un couple, il y a l'idée, en fait, d'être vraiment dans cette juste distance entre couple fusionnel et couple vraiment très libre, très indépendant. Et donc, c'est important, en fait, que chacun... Alors, ça, c'est le monde idéal, hein, je vous dis, ça, c'est le monde idéal, et après, on fait de la réalité, hein, mais le monde idéal, pour pouvoir aussi avoir du désir, ressentir du désir, c'est vraiment de... c'est d'avoir des activités pour soi, c'est-à-dire d'avoir du temps pour soi, du temps où vraiment... Je ne parle pas du boulot, hein, je parle d'un temps où c'est vraiment off, quoi, où on fait des activités pour soi, on pense à soi. Et c'est important aussi d'avoir des moments de qualité avec son conjoint. Et donc, c'est vraiment jouer, en fait, entre ces deux temps-là. Sauf que, quand on a la maison à s'occuper ou l'appartement, quand on a les enfants aussi, quand on a son boulot, en fait, souvent, ce qu'on fait passer en dernier, bah, c'est soi et son couple. Et donc, en consultation, je demande toujours aux gens, mais quelle est votre priorité? Votre priorité, c'est vous en un. C'est-à-dire que si vous, vous n'êtes pas bien, comment voulez-vous en fait bien vous occuper des autres? Quand je prends des fois l'exemple de la lionne, je dis toujours, bah voilà, la lionne, par exemple, dans la savane, qui, en fait, elle, quand elle va chasser, à qui elle donne à manger en premier? Je pose la question, donc les gens ils me disent souvent, bah, à ses petits. Alors je dis non. D'abord, elle se donne à manger à elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, si elle, elle n'a plus d'énergie, comment après elle peut bien s'occuper de ses petits? C'est pas possible. Donc c'est juste une petite histoire pour comprendre en fait que la priorité numéro un dans la vie, c'est vous, c'est nous. On est la personne la plus importante au monde. Et si on ne s'aime pas soi-même, bah en fait, les autres ne pourront pas nous aimer. Si on ne s'occupe pas bien de nous, bah du coup, on va toujours être en demande en fait des autres qui vont en fait combler nos manques, nos attentes. Donc d'abord, prenons soin de nous, prenons soin de nos besoins, prenons soin de notre corps. Et ça, c'est vraiment la priorité, je pense, numéro un. Parce que le désir, c'est aussi des sensations, c'est aussi du corps. Donc si à un moment donné, on ne prend pas un peu de temps, en fait, pour juste avoir du temps pour soi, où on met sur pause, off, comment voulez-vous ressentir aussi votre corps et ses sensations physiques, où le désir va venir à ce moment-là, d'ailleurs. Il y a des femmes, elles me disent, mais en fait, moi, le désir, je le ressens, mais l'après-midi. Parce que l'après-midi, je fais une pause. Le soir, à la fin de la journée, elles sont épuisées, elles ne ressentent pas le désir. Par contre, à d'autres moments de la journée, oui. Donc là, c'est super intéressant de se dire aussi, bah justement, voilà, prendre du temps pour soi, ça permet aussi vraiment d'identifier aussi justement quand est-ce qu'on a du désir et que peut-être que c'est pas en fait le soir à 22h, quoi, finalement.
Ah oui. D'accord, d'accord. Merci Florence de nous avoir expliqué un peu tout ça déjà. Alors on a vu penser à soi, c'est important. Oui. Ça, on le répète souvent sur psychologue.net, mais bon, c'est encore du mal à rentrer, donc je pense qu'on peut encore travailler là-dessus des années, mais donc c'est bien de le rappeler. Et maintenant, comment stimuler et entretenir le désir dans le couple?
Alors, là aussi, il y a plusieurs facteurs. Encore une fois, hein, s'il n'y a pas une recette miracle, sinon je pense que je serais riche et j'aurais sorti un bouquin là-dessus. Bon, il y a quelques livres quand même là-dessus, hein, qui existent, qui sont vraiment intéressants. Comme Femme désirée d'ailleurs, Femme désirante de Daniel Flomenbaum, L'intelligence érotique d'Esther Perel, il y a Alain Eril aussi, enfin voilà, je cite un peu quelques auteurs comme ça, ils sont sur mon site internet d'ailleurs en bibliographie si vous voulez les retrouver, mais c'est intéressant aussi parce que la lecture permet d'étayer davantage aussi ce que je vais vous dire là aujourd'hui.
Donc oui, comment on fait pour... Et souvent les personnes demandent des lectures en plus, elles veulent toujours avoir un peu d'informations, donc c'est génial.
Carrément, carrément. Ouais, puis moi, c'est des bouquins aussi qui m'ont beaucoup aidé avant que je fasse ce métier-là. Et voilà, donc je trouvais ça aussi inspirant. Je dirais déjà, donc, raviver le désir. Donc, un, voilà, prendre du temps pour soi, déjà, ça, c'est la première chose. De pas, en effet, être trop fusionnel avec son conjoint. Parce qu'à un moment donné, en fait, du coup, le désir, c'est comme le feu. Le feu, en fait, il a besoin d'espace pour vivre, pour être bien enflammé. Et ben, le désir, c'est pareil, en fait. Si on est tout le temps collé à l'autre, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'espace. Et donc, le désir, il a besoin, en fait, de manque. C'est comme ça. D'ailleurs, il y a des personnes, des patientes à moi qui me disaient ça ce matin. Bah, quand je pars en voyage, par exemple, une semaine, que je ne suis pas avec mon mari ou pour le travail ou autre, bah en fait, je reviens, mais j'ai du désir pour mon mari, quoi. Parce que, justement, il y a eu du manque. Donc, c'est comment, dans le quotidien, on peut, justement, en fait, créer des espaces, finalement, où on peut se manquer et on peut, du coup, avoir envie, aussi, de retrouver son partenaire. Moi, je dirais aussi vraiment d'être attentif à son corps. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la sexualité, c'est le désir, en fait, il vient se mettre dans le corps et aussi dans le cerveau. Donc, tout à l'heure, on a parlé du cerveau, d'être dégagé de trop de charge mentale, mais aussi dans le corps. Comment, en fait, vous faites, bon, là, je m'adresse à vous, hein, mais voilà, qui nous écoutez, comment vous faites aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour votre corps? À quel moment vous prenez soin de votre corps? Est-ce qu'il y a une activité physique? Est-ce qu'il y a de la danse? Est-ce qu'il y a des massages? Est-ce qu'il y a de l'énergétique? Est-ce que quand vous prenez une douche ou un bain, est-ce que vous prenez du temps aussi pour, voilà, pour toucher ces différentes parties du corps, pour sentir, pour ressentir? Et tout ça, en fait, il y a aussi la méditation de pleine conscience avec les scans corporels aussi qu'on peut intégrer. Donc, quand je prends du temps pour respirer, pour ressentir, ça aussi, ça va permettre en fait de se connecter à son désir. Donc, des fois, en fait, on a l'impression qu'on n'en a pas. Mais en fait, si, on l'a, mais on est coupé. J'ai oublié de dire un truc qui est important aussi. Ce qui nous coupe de notre désir, c'est des fois aussi quand il y a des traumatismes. Et que ça, quand il y a eu des traumas, bah là, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des peurs qui sont complètement entendables et normales. Et c'est pour ça que c'est important aussi, je pense, de se faire accompagner quand il y a eu des traumatismes, des abus, des violences, des viols ou autres, de pas rester seul en fait avec ça. Et quand vous êtes prêt, sans forcer, de se faire accompagner, par exemple, avec qui vous voulez, mais en tout cas, de vraiment travailler ça, parce que votre corps, en fait, il est coupé. Et vraiment, je vois, alors je fais ça, mais c'est pas là, hein, mais c'est vraiment au niveau je me lève, mais c'est vraiment au niveau ici. Souvent, les femmes, elles me disent, c'est souvent des femmes, mais qui, voilà, il y a plus, voilà, non, bref. Elles me disent, je suis coupée au niveau du bas du ventre. Donc là, en fait, le désir, bah, il peut pas circuler, quoi. Donc ça, c'est aussi une des choses importantes, c'est de pouvoir être accompagnée là-dessus. Comment on fait aussi pour travailler, pour raviver le désir? C'est important de communiquer. Alors voilà, je ne vous apprends rien. Hein. Communiquer, c'est comment est-ce que je peux vraiment déjà avoir conscience de ce qui se passe en moi. Donc qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que là je suis heureuse? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis agacée? Comment je peux du coup le communiquer à l'autre, à mon partenaire, à ma partenaire, en lui disant, mais écoute, là en fait... je t'aime beaucoup et ça n'a rien à voir avec toi, mais juste fait ce soir je suis fatiguée et du coup j'ai pas forcément envie de sexualité, peut-être pas envie de pénétration, mais par contre j'ai envie qu'on passe un temps ensemble de connexion, d'intime, j'ai envie d'être proche, j'ai envie qu'on se fasse du corps à corps. Et ça, vous voyez, ça c'est tout bête, mais de dire ça, bah, l'autre en face, bah, il se sent pas frustré, il se sent pas rejeté, il se sent aimé, désiré. Et du coup, la femme, bah, elle se sent moins coupable aussi, parce qu'elle se dit, bah, en fait, qu'est-ce que je vais pour? Parce que des fois, souvent, la femme se sent coupable aussi, dire, voilà, en fait, bah oui, ce soir, j'ai encore pas envie. Alors, soit, qu'est-ce que j'invente pour éviter, soit, je vais dire non, mais en fait, j'ai toujours l'impression de voir celle qui dit non. Et ça, c'est vraiment important aussi, des fois. Alors, j'insiste bien, soyons bien clairs. Je ne dis pas qu'il faut se forcer, jamais, évidemment. Par contre, des fois, les femmes, nous, on a plus de désir, ce qu'on appelle un désir réactionnel. Je fais la distinguo. On a du désir spontané et du désir réactionnel dans la vie. Le désir spontané, bah, c'est en fait, vous croisez quelqu'un dans la rue, tout de suite, en fait, ça vous donne envie, vous avez envie, vous ressentez du désir. Vous avez aussi votre imaginaire, vous lisez un livre, en fait, érotique, hop, désir spontané, vous avez regardé votre partenaire à côté, vous avez envie, quoi. Le désir, il est spontané. Le désir réactionnel, on ne ressent pas ça. On ne ressent pas à l'intérieur de soi, dans son corps, on se sent plutôt fatigué, on n'a pas spécialement envie. Par contre, quand notre partenaire va venir nous faire un massage, va nous dire des mots doux, va nous proposer, peut-être nous offrir un cadeau, va nous proposer de partir en voyage, tout ça, ça va ouvrir quelque chose en nous. Et là, avec du temps, avec en effet voilà, des caresses, il peut y avoir du désir qui arrive et qui soit réactionnel, en réaction en fait à des gestes, des mots qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Et ça, ça ouvre quelque chose au niveau du sexe après. Donc des fois, on peut être lubrifié sans avoir le désir. Mais du coup, quand il y a des caresses, des massages et des choses en fait qui s'ouvrent, on sent qu'on est lubrifié et le désir, il va arriver petit à petit. Donc, c'est des fois je dis vraiment pas de se forcer, attention, hein, mais de se dire, ok, je suis ouverte, pourquoi pas, on peut se mettre en effet dans le lit et on voit ce qui se passe. Et de dire, bah, par contre, voilà, si je le sens pas, bah, je te le dirai, je le sens pas, bah, non, en fait, là, il se passe rien et je vois bien qu'en fait, bah, non, je suis vraiment fatiguée et j'y arrive pas. Et de l'homme, de dire aussi, bien sûr, à sa partenaire, bah, écoute, voilà, dès que tu sens que c'est pas ok, tu me le dis. Et vraiment, et voilà, et on communique, quoi. Je vois tellement de couples, Charlotte, qui ne communiquent pas. Tellement qui, en fait, ils n'osent pas. Il y a beaucoup de pudeur, beaucoup de gêne, beaucoup de timidité. Parlez-vous de sexualité entre vous, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Il y a des bouquins comme Jouissance Club aussi qui sont des bons prétextes à la communication. Vraiment, allez-y, il n'y a pas de risque. Le seul risque, en effet, c'est bien avant. Enfin, voilà, par contre, des fois, ils n'osent pas. Et c'est pour ça qu'ils viennent dans mon cabinet. C'est justement parce qu'en fait, moi, je suis un tiers neutre qui permet de débloquer les choses. Et des fois, il y a des femmes et des hommes qui viennent dans mon cabinet. Et en fait, des fois, il y en a, ils viennent me voir même pas beaucoup de séances. Et le fait juste d'en avoir parlé avec moi, ils rentrent chez eux. Et après, ils me disent, mais en fait, juste d'en avoir parlé avec vous, bah, du coup, avec ma femme, bah, j'ai débloqué des choses, on a pu parler de sexualité, et puis ça va vachement mieux, et c'est super, et tout. Donc, des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que quand c'est pas plus compliqué que ça, c'est parce que ça fait pas très longtemps. Là, j'insiste un point important. Attention, n'attendez pas des années avant de consulter. Je vois tellement de personnes qui viennent me voir, mais ça fait 10 ans. Alors, oui, c'est possible de s'en sortir, mais moi j'ai une dame là ce matin dans mon cabinet, ça fait, je crois que ça fait à peu près de 20 ans qu'elle a sans quasiment pas de désir. Et là, ça fait un an que je la suis, cette dame-là, et elle me disait voilà, qu'elle pouvait, ça y est, commencer à faire des rêves érotiques, qu'elle commençait à être curieuse de ça. Un an. Et je trouve ça super, j'étais tellement touchée qu'elle me dise ça. Et je me suis dit, ben, en fait c'est ça, mais il faut du temps. Et voilà, c'est juste de dire aussi, on n'a rien sans rien, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je mets juste une pièce dans la machine et puis pof, 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 ça marche, quoi. Il y a besoin de temps, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de se sentir en confiance et en sécurité. Si on n'est pas en confiance et en sécurité, on ne peut pas communiquer et on ne peut pas s'ouvrir sur la sexualité. Et on ne peut pas exprimer son désir. Donc ça aussi, évidemment, c'est la base. Hein. La base, c'est la sécurité et la confiance, quoi. Voilà, il y a plein de choses, hein. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais...
on est là pour ça, Florence, justement, aller au fond des choses et comprendre un peu mieux comment ça se passe et comment débloquer tout ça. Maintenant qu'on a vu comment stimuler et entretenir le désir dans le couple, alors, si on a une solution pour le retrouver.
Alors, c'est à couper, Charlotte, tu dis quelles sont les solutions, c'est ça?
Oui, quelles sont les solutions pour retrouver son désir, finalement, s'il est en berne?
Ben, c'est ce que je viens d'expliquer, quoi. C'est vraiment, déjà, je pense déjà d'en avoir conscience. C'est tout bête, mais comme tout problème dans la vie, si à un moment donné, ben, on n'en a pas conscience, ça peut pas bouger. Donc déjà, première chose, en avoir conscience. Deuxième chose, en effet, ben, moi, je pense en parler, vraiment. Que ça, d'en parler, des fois avec des amis, ça peut suffire. Des fois, il faut aller, ben, en effet, consulter un professionnel. Pas parce qu'encore une fois, nous, on est neutre, c'est-à-dire qu'on va pas, on va vous écouter de façon active, quoi. On va pas dire, oh, mais non, t'inquiète, c'est pas grave. Ou alors, ramener à soi, vous savez, parce que des fois, les amis, on est super... ça part d'une bonne intention, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil d'avoir un professionnel ou d'aller voir un ami. Parce qu'un ami, ben, voilà, aussi, là, c'est pour problème. Donc, des fois, il va dire, ah, ben, oui, c'est comme moi. Sauf que nous, des fois, on a juste besoin d'être écouté, d'être juste d'avoir un temps où quelqu'un nous écoute vraiment, quoi. Et ça fait tellement de bien, déjà. Donc, voilà, comment les solutions? Bah, donc, en prendre conscience, pouvoir communiquer à quelqu'un, pouvoir communiquer à son partenaire. Déjà, de dire aussi, mais je vois bien que là, il y a un truc, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Et de son partenaire aussi, dise ce qui se passe pour lui ou elle. Ben oui, je vois bien qu'en ce moment... c'est un blocage, écoute, pour moi, c'est ok, t'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut. Ou alors, ben oui, je me sens vraiment frustrée en ce moment et ça me rend triste parce que j'ai l'impression que tu me rejettes. Mais non, je te rejette pas, c'est juste que, en fait, moi aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'avoir tout à gérer. Ok, mais comment on fait alors? Est-ce qu'au niveau des tâches ménagères, on peut peut-être déléguer davantage, on peut peut-être répartir? Voilà. Faire le point, en effet, vraiment sur le couple. Se poser les questions aussi de... Voilà, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie? Qu'est-ce qui me plaît dans mon couple? Qu'est-ce qui me plaît dans ma sexualité? Est-ce que je me sens obligée de certaines choses dans ma vie, dans mon couple, dans ma sexualité? Est-ce que j'exprime en effet mes désirs, mes besoins? Vous savez, travailler sur le désir qui est en berne, c'est aussi travailler avant tout sur le désir de vie. Qu'est-ce qui nous redonne du désir dans cette vie? Qu'est-ce qui fait que je suis en vie? En deux mots, en vie, voilà. Qu'est-ce qui fait que j'ai des envies? Qu'est-ce qui fait que je suis en vie? Comment je me sens vivante à l'intérieur? Comment je me sens une personne, en effet, désirée, désirante, désirable? Et ça, c'est plus large que la sexualité. ça touche à ce qui est vivant en nous. Qu'est-ce qui fait que le matin, en fait, je me réveille et je me dis « Ouais, c'est chouette, là, je suis contente, j'aime bien ma vie en ce moment. » Ou qu'est-ce qui fait que je me lève et je me dis « Encore une journée de plus, j'en peux plus, là, j'en suis fatiguée, j'en ai marre, je suis triste, c'est dur ce qui m'arrive en ce moment. » Donc, vous voyez, c'est ça, quoi. Est-ce que je prends du plaisir dans ma vie? Qu'est-ce qui me donne du plaisir dans ma vie? Est-ce que c'est justement quand je suis avec des amis? Est-ce que quand je suis avec mon conjoint? Qu'est-ce qui fait qu'avec mon conjoint je prends du plaisir? Comment on peut développer ça? Voilà. Et en effet, est-ce que je suis focus vraiment sur mes désirs aussi? Ou est-ce que je suis plus focus sur l'autre? Voilà. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser, je trouve, qui sont intéressantes. Un truc aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est travailler sur l'imaginaire érotique. On parle des fantasmes des fois, et c'est aussi s'autoriser, quand tout à l'heure je parlais des rêves érotiques, ça en fait partie. C'est comment on peut s'autoriser à avoir des pensées, à imaginer en fait aussi des choses. Donc souvent les femmes, elles vont aimer plus les livres, les audios. Les hommes, du coup, vont plus aller vers du porno. Le porno, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le porno encore une fois. Mais le risque du porno, c'est que ça va un peu tuer l'imaginaire parce que ça va, comment expliquer ? Ça va être vachement stimulant. Comment, Charlotte ?
Je voulais dire, donner une idée préconçue, une image toute faite, quoi, non ?
Alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai que déjà, ça donne une image toute faite et que, non, en fait, les femmes, elles ne jouissent pas en 2 secondes. Non, oui, elles ont besoin, en effet, de caresses, de préliminaires pour préparer le corps. Oui, elles ont besoin d'une stimulation externe du clitoris parce que ça aussi, ça, c'est quand même, il y a besoin d'éducation sexuelle chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien le répéter, je vous le répète, 6% des femmes auront un orgasme uniquement par stimulation interne du clitoris, c'est-à-dire que par la pénétration vaginale. Donc, messieurs, mesdames, si à un moment donné, dans le rapport pénétratif, il n'y a pas de stimulation externe du clitoris, vous avez 6% de chance d'arriver à avoir un orgasme. Donc, c'est important de le dire. Disons qu'on est, après le désir, puisque le désir, c'est avant, du coup, l'excitation. Hein. Mais ouais. C'est important parce que, du coup, sachant, par exemple, si vous êtes une femme et que vous savez que votre partenaire, en fait, ne prend pas le temps de prendre le temps, justement, avec vous et que vous ne lui avez pas dit, quel désir vous allez avoir, en fait, de ce rapport sexuel, vous savez qu'en fait, en vrai, ça ne va pas être super, quoi.
Ouais. Indispensable de le rappeler, je pense.
Ouais, juste, je me permets, parce que je pense que ça, je le rappelle maintenant souvent dans les consultations. Mais ouais, c'est important, quoi. Il y a un besoin d'éducation, quand même, à la sexualité. Et le problème, c'est que le porno sert de ça aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Alors, super Instagram là-dessus, parce que franchement, je trouve que c'est un super outil d'éducation à la sexo. Et vraiment, ça, c'est top, quoi. Voilà.
D'accord.
Voilà un petit peu.
Merci. Merci Florence. Une petite dernière question. J'en profite dans ce pack de questions, de premières questions. C'était finalement, est-ce qu'il y a un type de thérapeute qu'une personne peut aller consulter dans ces cas-là?
Oui. Moi, je dirais déjà, nous, les sexologues, thérapeutes de couple, on est vraiment identifiés, je crois, pour ça et formés pour ça. Et surtout, en fait, tout à l'heure, j'avais un couple là, qui est venu me voir et le monsieur, il disait, en fait, je vous ai choisi. C'était le premier rendez-vous. Il me dit, parce que je demande toujours pourquoi, comment vous m'avez connu, tout ça. Il me dit, je vous ai choisi parce que vous étiez aussi sexologue et pas que thérapeute de couple. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'ils savent que dans mon cabinet, alors déjà, la déco, elle est un peu, elle est orientée, j'ai des clitoris, j'ai des bouquins là-dessus. Enfin, voilà, donc ils savent qu'en venant aussi dans mon cabinet, on va parler de sexualité, que c'est OK et qu'on y va à leur rythme. Je pose toujours une question en entretien qui est à quel point vous êtes à l'aise sur une échelle de 1 à 10 pour parler de ces sujets-là ici dans ce cabinet. Et ça permet vraiment de se rendre compte de si la personne me dit je suis à 2, je ne suis pas à l'aise, moi j'y vais tranquille quoi. On ne va pas parler de masturbation dès le premier rendez-vous si la personne elle me dit qu'elle est à 2.
Bien sûr.
Par contre, il y a des femmes, j'ai une jeune, là, elle a 23 ans et elle est dans mon cabinet et tout de suite, dès le premier rendez-vous, elle était à 10, quoi, parce que c'était hyper naturel pour elle et tout, elle parlait déjà de tout ça. Et ben voilà, l'inconvénient dans les couples, c'est que vous êtes 2 et que donc, il y a affaire avec 2 personnes qui sont plus ou moins à l'aise. Donc des fois, ça arrive que les 2 soient à l'aise et c'est cool, mais souvent, il y a un décalage. Et d'ailleurs, souvent, comment dire, le trouble du désir, comme on appelle chez nous, c'est beaucoup plus les femmes qui sont concernées. Et du coup, bah, les couples qui viennent me voir, l'homme aurait envie de bah, davantage de sexualité. Et la femme a dit, bah oui, je vois bien, en fait, moi, j'ai moins de désir. Là, c'est important de se dire, c'est en quantité qui a envie de sexualité ou c'est en qualité? Est-ce que c'est en connexion? À quoi sert la sexualité? Est-ce que c'est une connexion? Est-ce que c'est un rapprochement? Est-ce que c'est pour se rassurer? Est-ce que c'est pour partager, communiquer? À quoi sert la sexualité? Est-ce que c'est pour se décharger aussi? Est-ce que c'est... Posez-vous la question. À quoi me sert ma sexualité dans la vie? Personnelle aussi, parce que ça c'est important, c'est une sexualité personnelle, je pense, pour mieux se connaître et puis pour mieux dire à son conjoint, en fait, là, quand tu me caresses là, mais en fait, là, ça ne me fait rien. Par contre, là, cet endroit-là, ouais, c'est cool. Donc c'est ça, quoi. C'est vraiment... ça, je te dis, voilà, sexualité personnelle. Donc, voilà.
Ok. Merci Florence. En tout cas, on va regarder maintenant s'il y a des questions qui ont été posées. Il y en a. Alors, on a Virginie qui nous dit, que faire si notre partenaire, il a des soucis, désirs et machinerie, et qu'il ne fait rien pour améliorer?
Et oui, alors ça c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. Et ça, je pense, Virginie, que c'est vraiment important déjà de parler de vous. Qu'est-ce que ça vous fait? À quel point c'est un problème pour vous? En quoi c'est un problème pour vous? Si ça continue, c'est quoi le risque en fait dans la relation? Déjà, posez-vous ces questions-là pour vous. Voyez, de vous avec vous, quoi. Écrivez-les s'il y a besoin. Et de pouvoir après, en fait, vraiment l'exprimer à votre conjoint. Alors, je rappelle quelques petites règles sur la communication. Quand on a envie de parler d'un sujet un peu lourd, à son conjoint. Donc, un, on travaille déjà sur soi, en train de se dire comment je suis au clair avec ça, comment je peux lui dire ça, qu'est-ce que ça me fait moi. Voilà. Deux, on va demander à son conjoint quand est-ce qu'il est disponible pour parler de, voilà, d'un sujet, en tout cas, qui vous tient à cœur. Trois, le faire donc dans un espace-temps, à un moment de la journée et dans un lieu qui convient aux deux. Il y a des gens, ils veulent pas parler dans leur maison parce qu'ils disent, bah en fait non, c'est, je sais pas, je vois à chaque fois des trucs du coup qui chez moi c'est trop, voilà, ça me rappelle trop de choses, je veux pas ou je veux pas la chambre ou peu importe. Donc trouver un temps et un moment où les deux soient disponibles pour parler. Une fois que ça c'est fait, parlez de vous Virginie, parlez de, bah voilà, ce que ça vous fait. Bah, tu vois, en fait, quand je vois que du coup, on fait moins l'amour, par exemple, on fait l'amour qu'une fois par mois, et que bah, je vois que au bout de 3 minutes, bah, du coup, tu éjacules. Pour moi, je me sens en fait bah, assez triste et frustrée, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de partager ce moment-là avec toi, et que ce soit un vrai moment de partage et de plaisir, bah, que là, voilà, c'est compliqué pour moi, quoi. J'aimerais vraiment qu'on fasse durer ce moment-là. J'aimerais moi aussi en fait avoir un orgasme avec quand tu me pénètres et que bah, quand c'est 3 minutes, en fait j'ai du mal à arriver à ça. Pourquoi expliquez-lui aussi que vous, Virginie, en tant que femme, votre sexe a besoin d'au moins 10 minutes en moyenne chez une femme pour s'ouvrir, pour se lubrifier, pour être OK pour la pénétration. Un homme, il a l'érection, ça y est, il est prêt, quoi. Nous, la femme, il y a besoin de plus de choses, il y a besoin de plus de temps, il y a aussi besoin d'être disponible, je disais, dans sa tête, qu'il n'y ait pas de conflit non plus dans le couple. Parce que s'il y a des tensions, souvent ça bloque. Du coup, on n'a plus envie de partage, d'intimité, quoi, et de sexualité. Donc, dites-lui ce que ça vous fait pour vous et que vraiment, bah, c'est important et que vous avez envie de partager un moment avec lui et que ça soit chouette, quoi. Et que vous le désirez, que vous l'aimez. Ah oui, important, hein. Dites-lui bien que vous l'aimez et que ça n'a rien à voir avec l'amour. Le désir et l'amour sont deux choses différentes. On peut désirer quelqu'un sans être amoureux. On peut être amoureux sans le désirer. Et ce n'est pas parce qu'il y a un trouble du désir qu'on aime moins ou qu'on aime plus son partenaire ou sa partenaire. Vraiment. C'est hyper important.
Ça m'a rappelé. Merci à Virginie pour cette question intéressante qui, je pense, va parler à d'autres. Alors, déjà, il y a eu plein de questions qui ressemblaient beaucoup. Il y a eu bonjour, mon copain semble coupé de son désir depuis des mois. Je suis très frustrée sexuellement. Voilà, il y a pas mal de témoignages. On a intéressant. Je vais rebondir sur cette différence que tu as fait entre amour et désir. Une personne qui me dit, donc j'aime mon mari, je le trouve charmant, mais je ne ressens aucun désir envers lui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Alors, la question déjà, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ça, c'est une première question. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce que quand vous l'avez rencontré, vous l'avez trouvé charmant, mais c'était pas, vous l'avez pas tué, vous n'avez pas dit waouh, il est trop beau. Voilà. Donc déjà, première question, est-ce que c'est depuis toujours ? Bah, si c'est depuis toujours, c'est comme ça, c'est que vous avez autre chose à partager avec lui, il y a plus de complicité, mais il n'y a pas forcément ce désir sexuel pour lui. Si ce n'est pas le cas, du coup, si ça n'a pas toujours été le cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté ou de son côté ? Est-ce qu'il y a eu des événements qui sont arrivés ? Est-ce qu'il y a eu je parlais tout à l'heure des maladies, des grossesses, du chômage ? J'ai pas parlé assez de ça, Charlotte. Ça me semble important que quand il y a vraiment du stress, de l'anxiété, de la dépression ou même des fois de la déprime, je dis la différence, hein, déprime et dépression. Hein. Déprime, c'est coup de blues, ça va pas trop. Dépression, c'est maladie psychiatrique. Je n'arrive pas à me lever en fait le matin. Je vois tout en noir, voire j'ai des idées suicidaires. Donc là, c'est différent. Hein, voilà. Donc, y a le médecin qui va vous aider à différencier les deux, votre médecin généraliste ou un psychiatre, ou un psychologue. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que, justement, ce désir s'est arrêté, en fait, pour vous ? Est-ce qu'il y a des douleurs ? Est-ce qu'en effet, il y a eu... est-ce qu'il y a eu aussi... je n'ai pas parlé, mais infection urinaire à répétition aussi, ou mycoses qui sont arrivées, du coup, ça vous a un peu coupé votre désir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois que vous avez identifié les facteurs, du coup, après, on peut voir. Mais déjà, c'est ça, les premières questions à se poser. Mais c'est ce qu'on fait, nous, en consultation, en fait, clairement, avec les patients et les patientes, quoi. C'est qu'on va, du coup, faire une grosse anamnèse, une séance, en fait, où on va identifier, justement, tous les facteurs pour ensuite pouvoir cibler l'accompagnement. Si la personne me dit, oui, en fait, j'ai un cancer du sein, j'ai plus de désir, oui, là, c'est sûr que, du coup, c'est pas la même chose que si elle me dit, je suis au chômage ou il y a rien de spécial, mais en fait j'ai été éduquée dans une famille hyper tradie, la sexualité c'était hyper tabou, donc je suis un peu coupée parce qu'en fait pour moi ça ne peut pas, quoi. Une femme qui désire, c'est en effet, j'ai l'impression d'avoir mon père là au-dessus qui serait là avec la petite voix qui dirait mais non, mais pour qui tu te prends, c'est quoi cette fille de petite vertu là qui aime la sexualité, ah non ma fille, voyez, parce que c'est ça les croyances limitantes, hein. Et ça empêche aussi drôlement la sexualité. Et du coup, le désir, quoi.
Merci Florence.
Oui, je rebondis juste sur le traitement médicamenteux, Charlotte. Hein, vraiment, il y a des traitements médicamenteux. Et là, parlez-en à votre médecin. Si vous voyez qu'il y a un trouble du désir suite à un traitement médicamenteux, parlez-lui-en. Parce que lui, il ne peut pas deviner. Donc, dites-lui, écoutez, moi, je ressens que j'ai moins de désir là, avec ce traitement-là. Est-ce qu'on peut éventuellement modifier ? Le faites pas tout seul, évidemment, hein, faites jamais d'automédication, mais parlez-en à votre médecin. C'est possible des fois d'avoir d'autres traitements et franchement, ça change la vie, quoi. Voilà, c'était juste un petit point parce que j'ai vu qu'il y a une question.
Merci pour cette petite aparté. Alors, on a Miss Fashion, intéressant, parce qu'on repart sur les sites porno, on n'a pas trop parlé. Miss Fashion qui nous dit « Un homme en couple avec une jeune femme très désirable, mais lui semble très accro aux sites porno. » est-ce qu'il peut éprouver moins de désir envers sa partenaire à cause de ça ?
Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le porno, encore une fois, c'est un support pour beaucoup d'hommes à la masturbation, donc à la sexualité personnelle. Accro, alors déjà, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que c'est accro ? Pour qui, en fait ? Est-ce que lui a l'impression d'être accro ? Ou c'est en fait sa jeune femme avec qui il est ? Qui, lui, elle a l'impression en fait que lui est accro. Donc déjà, accro, c'est quoi ? quel moment on parle d'addiction en fait ? Parce que je travaillais 10 ans en addictologie avant, donc vraiment, c'est important toujours cette question aussi de quoi on parle, pour qui c'est un problème, en quoi c'est un problème. À quoi ça lui sert ces sites porno ? Qu'est-ce qu'il va chercher en fait à travers ça ? Est-ce que ça a toujours été en fait sa façon de faire et du coup c'est un peu une habitude qu'il a depuis ses 13 ans depuis qu'il se masturbe parce que il a toujours été voir du porno et c'est ça. Donc de toute façon sur le porno, moi j'ai toujours, c'est intéressant d'aller chercher d'autres supports. Quand vous êtes un homme, c'est aussi intéressant des fois de quand vous vous masturbez par exemple, les hommes, c'est de pas rester uniquement sur le porno, des fois de couper le porno, d'être plus, de fermer les yeux, de partir dans votre imaginaire, pouvoir allumer le porno peut-être après. Voilà, d'essayer des sessions aussi de masturbation sans porno. Juste pour voir, est-ce que vous pouvez en fait vous masturber sans porno, quoi. Encore une fois, quand on est accro, quand on pense comme ça qu'il y a un peu addiction, c'est comment ça se passe quand j'en ai pas. Donc essayez sans, voyez ce qui se passe. Si vous dites, ah ouais, en fait, j'y arrive pas et tout, bah là, faites-vous accompagner par un professionnel ou une professionnelle, parce que c'est... Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même en effet une... Comment dire ? Je dis pas qu'il y a une addiction, mais qu'il peut pas s'en passer et qu'il est mal quand il en a pas. Oui, là, c'est un signe. Après, s'il a eu cette habitude-là, bah voilà, les habitudes, ça se change. Et ça, c'est OK. Et en effet, il a pu... oui, là, ce serait... Voilà, je pense que là, c'est bien de pouvoir consulter sur des trucs comme ça parce que ça demande à aller creuser un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que le porno, attention à ne pas être que là-dessus, quoi. C'est plus ça. Mmh. Et puis, parce qu'on n'est que sur du visuel. Le désir, il a besoin des cinq sens. On n'en a pas parlé tout à l'heure, hein. Le VACOG, hein, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Donc la sexualité s'appuie sur ces cinq sens-là. Et donc le désir aussi va être sur ces cinq sens-là. D'où l'idée tout à l'heure, on parlait du corps, hein, mais c'est ça quoi. Donc le porno, il n'active que le visuel. D'accord, et l'auditif ouais. aussi éventuellement, mais surtout le visuel. Donc, c'est restrictif, en fait, dans la stimulation. Quand on parlait de stimulation imaginaire aussi tout à l'heure, c'est qu'un des sens, quoi. Donc, amusons-nous à être sur d'autres sens aussi.
Bien sûr. Merci, merci Florence. On va faire une dernière question. Je voulais arrêter là, mais j'ai eu une question que je pense intéressante parce que la personne est un peu en détresse. C'est Kikou Rococo qui nous dit « Avez-vous déjà eu une consultation de couple où il n'y a plus de relation ?» où il n'y a plus de relations sexuelles depuis 6 ans, est-ce que c'est récupérable ?
Alors, j'en ai eu et j'en ai un là que j'accompagne actuellement. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus. Ça fait 5 ans. Alors, je dirais que dans la vie, pour moi, tout est possible. J'ai une tendance, je suis peut-être naïve, vous allez trouver, j'en sais rien. Mais je crois que... Sinon, je ne ferais pas ce métier-là en même temps. Mais oui, je crois que tout est possible. La question, vraiment, c'est... encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de relations sexuelles depuis 6 ans en fait ? Alors, c'est possible, il y a à peu près 10% de personnes aussi qui sont asexuées, c'est-à-dire qui n'éprouvent pas de désir, on n'en a pas parlé mais ça c'est important, qui n'éprouvent pas de désir et c'est ok pour eux et pour elles. Et bien l'important c'est que l'autre, son partenaire aussi, soit ok avec ça, mais si les deux déjà sont ok sur le fait qu'il n'y ait pas de relations sexuelles dans un couple, bah tant mieux, je veux dire, j'ai envie de dire, il est où le problème ? Souvent, bien entendu, malheureusement, c'est qu'il y en a un qui a envie et l'autre n'a plus envie. Donc ça, voilà. Mais si les deux n'ont pas, déjà, ça, pour moi, c'est pas un problème. À partir du moment où les deux sont d'accord, voilà, on a le droit de pas avoir de relation sexuelle dans sa vie, c'est ok. Hein. Après, en effet, c'est récupérable. Oui, ça demande, pour moi, je pense par contre, un travail d'être accompagné pour le coup, parce que ça fait 6 ans, quoi. Donc, quand ça fait longtemps, les choses se sont un peu installées. Et donc, ça va demander un petit travail, je pense, individuel ou de couple. Mais pour en effet, comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment, petit à petit, vous pouvez reprendre une intimité physique. On ne va pas vous dire en tant que sexologue, enfin, j'espère, allez-y, faites l'amour et vous verrez. Non, non, tranquille, on y va. On va peut-être... Est-ce qu'il y a du toucher déjà dans ce couple-là ? Est-ce que vous vous tenez la main ? Est-ce que vous prenez dans les bras ? Est-ce que vous pouvez vous caresser ? Est-ce que vous pouvez faire des massages ? Donc, voyez, tu vois, c'est Charlotte, c'est aussi comment on va nous travailler déjà, en fait, voir quel est l'existant, qu'est-ce qui se fait, comment communique ce couple, c'est quoi ce couple-là. Et après, du coup, on propose, nous aussi, des solutions, mais qui sont adaptées à chaque couple. Je n'ai pas des solutions clés en main en disant, alors vous, ce couple, c'est ça. Non, c'est, on fait de la dentelle, quoi. Hein, c'est au cas par cas.
D'accord. Merci, merci Florence pour cette explication. Il y avait d'autres questions, mais malheureusement, on n'aurait pas le temps de les faire. Mais n'hésitez pas à parler directement avec Florence sur son compte Instagram. Si je ne me trompe pas, des mots et du sexe, tout se tient. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lui parler directement sur son page Instagram et lui poser vos questions. Florence, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, un message à faire passer aujourd'hui ou pour parler de ton cabinet.
Je reçois des consultations donc à mon cabinet au Havre en Normandie et aussi en visio pour des rendez-vous individuels ou de couple. Et c'est juste envie de dire, prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous et qu'il n'y a pas de règles et que vous pouvez vous affranchir en fait de votre éducation familiale, de vos ancêtres, de ce que fait le voisin, de ce que disent les médias. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est vous. C'est qu'est-ce qui est bon pour vous dans votre vie. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de terminer là-dessus. C'est vraiment, voilà, faites-vous du bien, quoi. Et faites-vous plaisir. Et c'est surtout ça le désir. C'est faire des choses qui nous font plaisir dans la vie, qui nous donnent envie de se lever le matin. Et c'est top, quoi. Et voilà, donc prenez soin de vous.
Merci, merci beaucoup Florence pour ce temps que tu nous as accordé. Je te souhaite une très belle journée.
Merci, à bientôt Charlotte. Merci à vous.
Merci,
Au revoir.
belle journée à toi Florence.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.